Salut à tous, vous êtes dans le Labomatique, l'émission de Radio Campus Rennes dédiée à l'actualité de la recherche scientifique. Au programme du Labomatique, cette semaine, on zoome sur les travaux d'Océane Le Bot, chercheur au sein du laboratoire Éthologie animale et humaine. Océane Le Bot a développé une thématique de recherche peu commune pour les non-initiés et vient de publier avec son équipe un papier dans la revue The Journal of Experimental Biology pour son numéro du mois de décembre 2014. Elle s'intéresse au développement comportemental des jeunes caïs japonaises à partir des liens qu'entretiennent leurs parents. Son article montre en effet que plus les caïs japonaises entretiennent des liens forts lors de la période d'accouplement, plus leurs poussins seront motivés socialement et moins ils seront émotifs. On revient avec elle sur cette recherche dont les enjeux, même s'ils ne sont pas immédiatement perceptibles, pourraient avoir des conséquences positives sur le bien-être animal en contexte industriel.
Je viens du laboratoire d'éthologie animale et humaine du campus de Beaulieu, donc, qui est appelé laboratoire Ethos, et qui s'intéresse à l'étude du comportement, à la fois du point de vue de l'animal et du point de vue aussi de l'homme.
Alors, vous sortez d'un parcours de doctorat. D'accord. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur vos questionnements initiaux et les enjeux scientifiques qui entouraient votre thèse de doctorat à l'origine ?
Donc, ma thèse de doctorat s'est intéressée aux influences maternelles prénatales. Donc on viendra après sur le fait que c'est chez les oiseaux nidifuges. Les influences maternelles prénatales, c'est assez connu chez l'humain. Par exemple, on sait que si la mère est stressée pendant la grossesse, l'embryon va recevoir tout un tas de molécules chimiques qui vont ensuite influencer son comportement, son développement et puis son comportement. Et donc c'est ce qu'on appelle les influences maternelles prénatales. Et moi, je m'y suis intéressée chez les oiseaux parce que chez l'oiseau, la mère pond un œuf. Et du coup, une fois que l'embryon se développe dans l'œuf, il n'y a plus du tout de relation entre la mère et l'embryon. Alors que chez l'homme, tout au long de la grossesse, il va y avoir des interactions. Et donc, ça nous permet vraiment de nous détacher d'autres influences, d'étudier un facteur précis et de voir ce que ça donne chez le jeune.
Vous n'avez pas choisi n'importe quel type d'oiseau nidifuge, vous avez pris la caille japonaise. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est pourquoi la caille japonaise ? Est-ce qu'on pourrait peut-être faire les présentations avec la caille ? Quelles sont ses spécificités ? Pourquoi elle ?
La caille japonaise, c'est un petit oiseau, c'est un petit gallinacé en fait, donc de la même famille que la poule ou que la perdrix. C'est un oiseau qui est beaucoup plus petit que la poule, il va peser à peu près 350 grammes pour la souche domestique que nous on a utilisée. La caille japonaise, c'est un oiseau qui est très étudié dans le cadre des influences maternelles, que ce soit les influences maternelles prénatales ou postnatales aussi. On travaille depuis longtemps au laboratoire sur cette espèce parce que justement, après l'éclosion, la mère va s'occuper de ses jeunes pendant seulement 11 jours, mais ça suffit pour qu'elle ait une très très forte influence sur le comportement des jeunes. En 11 jours, elle va déjà moduler complètement son comportement. Et on a également mis en évidence aussi, dans le cadre d'une précédente thèse de Floriane Guibert, beaucoup d'influences prénatales, c'est-à-dire que plein d'événements qui vont avoir lieu au moment où la femelle va pondre ses œufs vont influencer le comportement des jeunes qui seront issus de ses œufs, parce que les événements subis par la femelle qui pond ses œufs modulent plein de choses à l'intérieur du jaune de l'œuf, comme des hormones stéroïdiennes, etc.
Et dans ce papier, vous vous intéressez donc aussi aux interactions entre papa et maman, on va dire ?
Oui.
Donc voilà, et est-ce qu'il y a des spécificités du point de vue, peut-être, du processus d'accouplement chez les caïs japonaises ? Vous précisez, me semble-t-il, qu'elles sont monogames.
Oui, c'est ça. C'est des oiseaux qui vont s'apparier en couple, donc monogame, un mâle et une femelle, et pendant une courte période. C'est pas comme, par exemple, les inséparables ou beaucoup d'autres oiseaux qui vont rester ensemble toute leur vie. Là, à chaque période de reproduction, un mâle et une femelle vont s'apparier pendant 5 à 6 semaines. Et puis après, une fois qu'ils ont développé un lien, ils vont rester ensemble pendant 5 à 6 semaines, la femelle va pondre ses œufs. Et une fois que les jeunes vont éclore, là, le mâle s'en va, la femelle s'occupe seule de ses œufs. Et à la période de reproduction suivante, ça recommence avec un autre mâle et une autre femelle.
D'accord. Et pendant ces 5 à 6 semaines, il me semble que le lien, par contre, qui est développé est assez fort.
Oui. Alors, on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus, parce que la caille japonaise est très difficile à observer en conditions naturelles, de par sa petite taille et puis parce qu'elle vit dans des milieux comme des champs ou des prairies. D'accord. C'est vraiment très difficile de l'observer. Mais on sait que le mâle et la femelle développent un lien qui leur permet de rester très proches, c'est-à-dire que s'il y a un des deux partenaires qui s'éloigne, l'autre va le rechercher activement. en faisant des cris d'appel, en faisant des comportements de vigilance. Donc c'est une posture corporelle dressée. Et les deux animaux, enfin le mâle et la femelle, vont synchroniser leurs activités. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, accorder leur réceptivité sexuelle dans la journée, d'accord, de façon à ce que les accouplements soient plus efficaces. Ils vont s'alimenter en même temps, etc.
Que donc pendant ces 5 à 6 semaines.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a eu déjà des études similaires avec d'autres animaux, ou c'était un questionnement qui était novateur de ce point de vue-là, d'étudier l'influence des liens parentaux sur le comportement des jeunes ?
Alors, c'est novateur parce que là, on s'est intéressé à une influence purement prénatale. C'est-à-dire que nos parents n'ont pas ensuite élevé leurs jeunes. Les jeunes ont été élevés sans parents. Donc c'est vraiment une influence prénatale. Une fois que les femelles ont pondu les œufs, nous on a fait l'incubation artificielle et on a regardé ce qui se passait au niveau du comportement des jeunes. Là, il n'y avait plus de parents. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré, mais surtout chez les oiseaux nidicoles, donc là où les jeunes ne peuvent pas vivre seuls après l'éclosion, ces études ont montré que le lien entre les parents, par exemple, depuis combien d'années ils étaient ensemble, ça avait une influence sur la survie des jeunes, sur leur capacité reproductrice à long terme. Mais là, ces jeunes sont élevés par les parents.
D'accord. Alors, on va peut-être revenir sur le protocole expérimental, parce qu'on se doute que si vous vous intéressez au, on va dire, au lien qu'il peut y avoir entre la force des liens parentaux et le comportement du jeune, c'est qu'il faut procéder par comparaison.
Oui.
Donc, est-ce que vous pourriez peut-être développer un peu ce qu'a été ce protocole expérimental ?
Alors, tout simplement, on est parti de ce qui se passe en conditions naturelles, c'est-à-dire un mâle et une femelle ensemble pendant 5 à 6 semaines. Donc ça, c'était le premier lot. Les deux animaux ont été élevés dans une petite cage ensemble en permanence. Et en comparaison, on avait un autre lot avec des femelles et des mâles, mais cette fois, le mâle était placé dans la cage de la femelle seulement pendant 5 minutes, 3 fois par semaine.
D'accord.
Donc ça correspond au protocole qu'on utilise classiquement, que ce soit en laboratoire ou même des fois dans les industries agroalimentaires,
oui,
dans les élevages de caille. C'est comme ça que se reproduisent les animaux. C'est-à-dire qu'on place le mâle de temps en temps avec la femelle.
Et donc, l'idée, c'était d'observer s'il y avait des différences qui existaient entre ces deux configurations,
exactement,
d'interaction entre les parents.
Oui.
Donc c'est ça. Et là, par contre, vous avez observé donc des différences assez nettes.
Voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, les caractéristiques du lien d'attachement entre le mâle et la femelle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé nos animaux après 2 semaines où ils étaient ensemble, enfin 2 semaines d'appariement, on les a placés dans une cage qu'ils ne connaissaient pas, et on a regardé leur comportement pendant 6 minutes. Voilà, donc là on a observé par exemple que les couples qui étaient appariés de manière continue étaient très peu perturbés, c'est-à-dire qu'ils faisaient des comportements qu'on appelle de confort. La femelle faisait du toilettage, du bain de poussière, donc le bain de poussière c'est secouer ses plumes dans les copeaux ou dans la terre. Ensuite, pendant 6 minutes, nous avons séparé les animaux. Le mâle a été placé dans une autre cage, dans une autre pièce, donc il ne pouvait plus du tout ni se voir ni s'entendre. Et là, les animaux qui étaient en couple continu ont été paniqués, ils se sont fait des cris d'appel, ils se sont recherchés visuellement, activement. Alors que les animaux qui étaient en couple non continu, c'est à ce moment-là qu'ils ont fait des comportements de confort. Eux, ils étaient plus à l'aise quand leur partenaire n'était pas là. Et après cette phase de séparation, on a à nouveau réuni les animaux et on s'est rendu compte, comme la première fois, que les animaux en couple continu faisaient des comportements de confort, ce qui n'était pas le cas pour les animaux en couple non continu.
D'accord, donc c'est en observant les comportements des animaux qu'on parvient à objectiver la force de leur attachement finalement.
Oui, on a quantifié leur comportement et on en a déduit un attachement plus ou moins fort selon l'appariement.
Qu'est-ce que vous avez tenté de mesurer comme différence et par quels moyens vous y êtes pris ?
Chez les parents ?
Chez les parents, et on reviendra peut-être après justement sur les, sur les petits.
Alors chez les parents, c'était de l'exploratoire, on n'a pas tenté de mesurer autre chose. On a regardé chez les parents si leur activité quotidienne changeait. C'est-à-dire si la quantité de temps passé à se reposer, à manger, etc., changeait en fonction de si l'appariement était continu ou non continu, au-delà de l'appariement, de l'attachement dont j'ai parlé tout de suite. Et on n'a vu aucune différence, c'est-à-dire que le fait d'être ensemble en permanence ou de se rencontrer 3 fois par semaine, ça a seulement changé le lien qui s'établit entre le mâle et la femelle, mais pas les autres comportements que les animaux peuvent faire au quotidien.
Et vous disiez aussi que vous aviez observé donc chez les petits.
Oui. Une fois que les femelles ont pondu leurs œufs, on a fait une incubation artificielle au laboratoire et on a élevé les petits, donc ils sont nidifuges, sans parents. Comme ils sont nidifuges, ils naissent avec du duvet, les yeux ouverts, ils peuvent marcher, s'alimenter tout seuls. Il faut juste une source de chaleur dans la cage parce qu'ils ne régulent pas très bien leur température. Et ces jeunes qui ont été élevés sans parents, nous avons mesuré des caractéristiques comportementales telles que la réactivité émotionnelle et la motivation sociale.
De retour dans le Labomatique, après cette interlude musicale sur Radio Campus Rennes, vous venez d'écouter le groupe bordelais Bottyball, avec son titre A Ghost in the Attic. Nous revenons avec Océane Lebot, chercheure au sein du laboratoire Ethos. Elle étudie donc les liens entre l'attachement des cailles japonaises et le développement comportemental de leurs poussins. Aussi rigoureux que son protocole expérimental pouvait être, aucune hypothèse n'était clairement formulée lors de la réalisation de l'expérience. Il en ressort tout de même une découverte passionnante.
En off, on disait donc qu'il n'y avait pas forcément d'hypothèse de départ, c'était plutôt exploratoire, ouais. Ce qui vous a tout de même permis de découvrir quelque chose donc, qui est au cœur de votre article. Donc les jeunes cailles issues de parents qui avaient un fort attachement étaient plus sociables et moins peureuses.
C'est ça. En fait, on pensait bien qu'il y aurait une influence de l'attachement des parents sur le comportement des jeunes, mais on ne savait pas quels aspects seraient impactés. Et ce qu'on a observé, c'est que, donc ce qui est vraiment intriguant, c'est que si les parents avaient un lien fort, un fort attachement, les jeunes se sont montrés ensuite plus sociaux. C'est-à-dire que quand on les séparait de leurs congénères, ils faisaient des cris d'appel, ils étaient paniqués. Et également, lorsqu'on les a placés dans le test du runway, qui est une sorte de couloir où les jeunes voient en face d'eux des congénères qu'ils ne connaissent pas, si les parents avaient un fort lien d'attachement, les petits vont s'approcher très vite de ces congénères qu'ils ne connaissent pas.
D'accord, et donc moins peureux, c'est des notions qui ont été... Comment vous les objectivez, ces notions de sociabilité des petits et ces notions de peur? Comment on objective ça chez les animaux? Donc c'est au travers de l'étude du comportement,
oui,
donc on imagine.
C'est ça. C'est vraiment objectif, c'est-à-dire qu'on comptabilise les comportements effectués sur une certaine durée. Là, je vous parlais tout de suite du test du runway. On va comparer chez nos cailles, par exemple, le temps que les animaux vont mettre pour s'approcher, pour arriver au contact de congénères qu'ils ne connaissent pas. Ça, on a comparé entre les deux lots et avec un test statistique, ça montre que c'est significativement différent. Et pour l'émotivité, on va regarder ce qu'on appelle les comportements de peur. Par exemple, en conditions naturelles, une caille va adopter, quand il y a un prédateur qui s'approche, un comportement d'immobilité tonique, c'est-à-dire qu'elle va faire le mort, elle va se mettre sur le dos et ne plus bouger pendant un certain temps. Et il y a des études qui ont montré que plus la caille est émotive, plus elle est peureuse, plus elle va rester longtemps dans cette position. Donc c'est par exemple un indicateur de peur. On a d'autres indicateurs, par exemple le test d'émergence, où la caille est enfermée dans une petite boîte et on va regarder combien de temps elle met pour sortir de cette petite boîte toute seule, par exemple.
D'accord.
Et rentrer dans un environnement qu'elle ne connaît pas.
Bon, là, vous nous parlez donc de différences observables au travers d'un protocole expérimental, etc. Mais dans votre papier, vous faites savoir que vous avez cherché des explications de ces différences observées du côté des hormones. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être revenir pour nous sur cette démarche et qu'est-ce que vous avez tenté de chercher du côté des hormones?
Ce qu'on a tenté de chercher, c'est s'il y avait des différences hormonales, mais ce n'est pas chez les jeunes ni chez les parents, c'est au niveau du jaune des œufs. Puisque de nombreuses études ont montré que, en fonction des conditions de vie de la femelle, pendant qu'elle pond ses œufs, la composition du jaune de l'œuf va être modulée. Par exemple, une femelle qui va être stressée au moment où elle pond ses œufs parce que, je ne sais pas, moi, il y a des agressions des congénères, il va y avoir plus de stéroïdes dans le jaune de l'œuf. Par exemple, la testostérone sera en plus forte concentration. Et ça a été proposé comme explication pour expliquer que les jeunes de femelles stressées sont plus émotifs. C'est parce qu'ils ont été, lors de leur incubation, ils ont été exposés à des plus fortes concentrations de testostérone.
Donc ça, c'est l'explication que vous donnez à ces différences.
Oui.
Et ça vous paraît, à l'heure actuelle, satisfaisant ou...
C'est plutôt satisfaisant, c'est-à-dire que ça a été également prouvé chez les mammifères. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, quand la mère est stressée pendant la gestation ou la grossesse, il va y avoir toute une communication entre ces facteurs circulants, les molécules comme le cortisol ou les hormones de stress, qui vont être diffusées dans l'embryon via le placenta. Et ça a été pareil, montré que c'est une conséquence, que ça a pour conséquence une modulation du comportement chez le bébé. Et donc c'est la même chose chez l'oiseau. La seule différence, c'est que comme il est dans un œuf, il n'y a plus d'autres facteurs qui peuvent intervenir.
Alors, on peut lire aussi dans ce papier que vous mentionnez des pistes de réflexion en termes épigénétiques.
Oui.
Est-ce que vous pourriez peut-être nous éclairer là-dessus, peut-être déjà préciser ce que veut dire épigénétique?
Alors, l'épigénétique, il y a plusieurs définitions. Ça fait un moment que ça existe comme terme. Celle que je vais donner aujourd'hui, c'est un consensus actuel. Ça concerne en fait des modulations de l'expression du génome sans modification de la structure. C'est-à-dire que vous avez un ADN qui a exactement la même structure, mais qui peut finalement produire différentes protéines ou s'exprimer différemment, au final. Ça, c'est possible parce que, justement, tous les facteurs environnementaux qu'il peut y avoir à certains moments de la vie vont moduler les petites molécules comme les histones, etc., qui entourent l'ADN, et ça va conduire à des expressions différentes de protéines. C'est ça, l'épigénétique. Au sens où j'en parle, en tout cas.
D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous proposez comme piste de réflexion autour de ce phénomène épigénétique?
Alors, l'idée dans cette expérience, c'est que l'attachement entre le mâle et la femelle ait pu moduler différentes concentrations de certaines hormones dans le jaune de l'œuf, et que c'est ces hormones qui vont modifier l'expression du génome de l'embryon, et donc son développement final. Le souci dans notre étude, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver quelles seraient les hormones modulées. Et donc, on a encore du travail de ce point de vue-là, parce qu'on a étudié quelques hormones, mais il en reste d'autres qui pourraient être impliquées.
Dans les différents papiers qui ont circulé autour de ces découvertes, on peut lire qu'il y aurait peut-être des développements aussi du côté de chez l'humain, ou du moins un transfert de connaissances du côté de chez l'humain. Vous me disiez que ce n'était pas forcément votre but à la base.
Non, ce n'était pas l'idée. Nous, on travaille vraiment d'un point de vue fondamental chez l'oiseau.
Oui.
On va dire que premièrement, une première application possible serait, par exemple, au niveau des élevages, essayer de voir si la façon dont est organisée la reproduction chez les parents puisse être modulée par les éleveurs pour améliorer le bien-être des jeunes ou les caractéristiques des jeunes, puisqu'on comprend bien que des petits issus de parents avec un fort attachement, qui sont plus sociaux, donc les jeunes sont plus sociaux, ils vont être plus tolérants envers leurs congénères, il va y avoir moins de blessures, ce sera rentable et pour les animaux et pour l'élevage. Ça, c'est une application beaucoup plus concrète.
En termes industriels?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Après, pour aller voir ça du point de vue de l'homme, il faudrait d'abord commencer par reproduire ces études chez les mammifères, par exemple chez les rongeurs ou chez les primates non humains, Et puis, il ne faut pas oublier que chez l'homme, il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en jeu, comme par exemple tout l'environnement social de la femelle, de la mère pendant la grossesse. Et puis, chez les enfants, ils sont toujours élevés avec des adultes, par exemple. Il y a énormément de facteurs prénataux et postnataux qui vont moduler. Enfin, on ne peut pas directement dire que si les parents étaient plus attachés chez l'homme, les petits seraient plus sociaux. Les enfants seraient plus sociaux.
Que oui, c'est beaucoup plus complexe, oui, vous me rassurez quand même.
Il faut pas faire un raccourci de cette étude directement à l'homme.
D'accord. Alors, j'avais pas prévu de vous poser cette question au départ, mais moi j'ai vu des commentaires circuler sur ces découvertes sur Internet, et donc certaines personnes parlaient donc de l'éclosion de plus en plus manifeste du droit des animaux, et donc se posaient des questions par rapport au protocole expérimental. Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées aussi en termes peut-être éthiques ? Je sais pas.
Oui. Bien sûr. Alors, il faut savoir que toute expérience effectuée sur des animaux est soumise à une autorisation de la part du ministère de la Recherche, et l'autorisation qu'on a eue et qui est très réglementée. Il y a vraiment un gros questionnement éthique à l'heure actuelle là-dessus. Et nos expériences à nous, qui s'intéressent uniquement au comportement, sont vraiment très peu anxiogènes pour les animaux, puisque nos parents, le traitement qu'ils ont eu, c'est soit ils ont été élevés avec une femelle en couple continu, où seulement ils se sont rencontrés 3 fois par semaine, ce qui n'est pas très stressant. On les a élevés dans des environnements assez enrichis pour qu'ils soient le mieux possible. Et puis pour les petits, c'est pareil, nous avons effectué des tests comportementaux qui restent très peu anxiogènes comparés à d'autres études qu'on peut observer dans le milieu médical.
D'accord.
C'est quelque chose qui...
C'est une réflexion qui est vraiment prise en compte au moment de l'élaboration du protocole. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Alors, en guise d'ouverture, qu'est-ce que vous nous proposeriez ? Quel type de questionnement ou d'enjeu cette recherche va-t-elle permettre de circonscrire à l'avenir ?
Alors, on parlait tout à l'heure des conséquences ou des applications possibles chez l'homme. C'est bien sûr une finalité possible, mais en passant par d'autres étapes telles que les études chez d'autres mammifères comme les rongeurs ou les primates non humains. Ça va également ouvrir, comme je l'ai évoqué, des réflexions en termes de bien-être animal. Puisque maintenant qu'on sait que la relation entre les adultes influence le comportement des jeunes, donc on savait déjà, mais là on est un peu plus précis, puisqu'on sait que la relation entre les reproducteurs influence les jeunes, donc ça peut avoir beaucoup d'influence sur la façon d'organiser les élevages. Et puis il nous reste quand même quelque chose de fondamental à trouver, c'est quel est le lien entre ce lien d'attachement chez les parents et les conséquences comportementales chez les jeunes, puisqu'on n'a pas trouvé de différence au niveau des œufs. Nous, on a regardé seulement 2 hormones. Et il existe une autre hormone qui est très fortement suspectée dans cette histoire, c'est l'ocytocine. Chez les oiseaux, c'est plutôt la mésotocine, c'est l'homologue de l'ocytocine des mammifères. C'est une hormone chez les mammifères qui est impliquée dans l'attachement entre les animaux et entre, par exemple, l'attachement entre la mère et ses jeunes également. Et chez les oiseaux, ça vient d'être démontré qu'il y a également cette molécule, donc la mésotocine, qui est impliquée dans l'attachement entre le mâle et la femelle au moment de la reproduction. Et donc très probablement que nos animaux qui étaient en couple continu n'avaient pas du tout les mêmes niveaux de mésotocine que les animaux qui étaient en couple non continu.
D'accord, donc ça c'est des pistes fondamentales.
Voilà, puisque c'est impliqué dans le lien de couple, c'est impliqué dans la socialité. Nos parents en couple continu ont fait des jeunes plus sociaux. Est-ce qu'il y a vraiment de la mésotocine qui ne peut pas être impliquée là-dedans ? On se pose cette question et ce sera probablement les premiers travaux à effectuer seront de cet ordre-là.
D'accord, donc ces prochains chantiers sont annoncés déjà.
Sachant qu'on ne sait pas du tout s'il y a de la mésotocine dans les œufs à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment c'est l'inconnu total.
C'était le Labomatique sur Radio Campus Rennes, votre émission dédiée à l'actualité de la recherche scientifique. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr. Comme d'habitude, vous y retrouverez des liens pour approfondir la thématique du jour.